Bonsoir à tous, bienvenue. Je suis le père Éric Morin, prêtre du diocèse de Paris et le directeur des études dans cette maison. Et c'est à ce titre-là que je viens vous saluer pour vous souhaiter la bienvenue à tous, à chacun, à Aux Captifs la Libération, qui vient régulièrement ici pour organiser table ronde, assemblée générale. J'ai quand même souvenir qu'une ou deux fois, il y a eu l'assemblée générale ici. Voilà, j'ai eu la chance, au début de mon ministère, ça fait il y a plus de 25 ans, de pouvoir participer aux activités de Captifs la Libération. J'ai participé à la création de l'antenne à Saint-Vincent-de-Paul. Je ne sais plus quel nom elle a aujourd'hui. Saint-Vincent-de-Paul toujours, voilà. Et de faire des tournées rues sur la gare du Nord. Donc je me souviens avec émotion, disons-le comme ça, du service que vous rendez. Et je suis très honoré de pouvoir vous accueillir, très honoré et très rassuré, parce que du coup, ça me permet de faire le lien entre plusieurs petits bouts de ma vie, celle d'enseignant au Collège des Bernardins et puis cette vie paroissiale que j'ai pu avoir. Le Collège des Bernardins est une maison où il y a 4 entrées. Alors, vous en avez pris une, celle de l'échange et du débat. Il y a celle de la vie culturelle et artistique, concerts et expositions principalement. Il y a celle de la recherche où des universitaires viennent discuter avec des théologiens. Il y a celle de la formation dont je m'occupe pour permettre au peuple de Dieu de nourrir sa foi par l'écoute de la parole de Dieu et des commentateurs et des commentaires et de la tradition et du magistère. Ces 4 portes-là veulent faire de cette maison un lieu où tout le monde a sa place et où on se laisse conforté et bousculé en même temps par la parole de l'autre. Et votre présence ce soir nous est précieuse parce qu'elle nous rappelle que se faire conforter et bousculer par la parole de l'autre, c'est aussi écouter, ça devrait être écouter d'abord celle des plus pauvres. Merci de nous le rappeler par votre présence, Père, de nous permettre de l'entendre par vos dialogues et votre échange. C'est pas une parenthèse, c'est quelque chose que nous cherchons à vivre régulièrement, quotidiennement, même si pour cela nous avons besoin de celles et ceux qui sont au plus près, dans la rue, pour les écouter, les accueillir, les comprendre et les aimer. Merci.
Merci Éric pour ce mot d'accueil. Voilà, très heureux de vous souhaiter à mon tour la bienvenue dans ce lieu chargé de sens des Bernardins. Donc, je suis Thierry Desjuseur, directeur des Captifs depuis un an et demi. Un certain nombre de remerciements d'abord. Alors, en principe, on est à guichet fermé ce soir. Comme vous avez vu, l'itinéraire pour arriver jusqu'à la salle est un petit peu compliqué. Donc, il y en a probablement quelques-uns qui sont encore en route. Cela dit, si vous pouvez vous combler les places vides, parce qu'effectivement, en principe, ça devrait être bien plein. Donc, merci pour votre présence. Merci à nos partenaires, donc le Collège des Bernardins, aussi le journal La Croix et Nathalie qui animera cette table ronde, et puis le diocèse de Paris, sans qui cet événement n'aurait pas eu lieu. Je remercie à l'avance nos intervenants, l'équipe qui a préparé cette soirée. Le déroulement de cette soirée, donc après ces quelques mots d'introduction, on a la chance d'avoir un témoignage donc, que je présenterai tout à l'heure. On aura notre table ronde, un temps de questions-réponses et puis un moment convivial et on l'espère fraternel de l'autre côté de l'entrée. Et puis, 2-3 mots à vous dire. D'abord, ce soir, ce n'est pas une soirée de collecte, c'est un moment de réflexion. Donc, on ne fera pas passer de panier ni au début ni à la fin de la soirée. En revanche, je profite de l'occasion pour vous faire passer quelques messages. D'abord, comme beaucoup d'associations, on est dépendant pour une part de la générosité du grand public pour assurer notre équilibre. Donc cette soirée a déjà pour objectif de remercier tous ceux parmi vous qui sont donateurs. Donc merci de votre soutien, sans lequel on ne serait pas là. J'ai une nouvelle un peu difficile, c'est que notre situation financière n'est pas simple en cette fin d'année. Vous imaginez bien que le contexte est incertain. On a une petite moitié de financement public. Forcément, ce n'est pas très simple, donc pas mal d'incertitudes. On a un risque de déficit pour cette année qui pourrait nous amener à réajuster certaines activités. Quand on accompagne des personnes en précarité, ajuster des activités, ça veut dire arrêter d'accompagner des personnes qu'on accompagne aujourd'hui ou gérer des listes d'attente. Voilà, donc c'est douloureux. On n'a pas de péril sur la pérennité de l'association, mais c'est une situation qui est compliquée. Donc, heureusement, j'ai trois bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est qu'il semble que le gouvernement et l'Assemblée aient décidé de pérenniser les avantages fiscaux pour ceux qui payent des impôts, voire même peut-être de les élargir. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on s'est organisé, donc dans le petit kit que vous avez reçu, il y a un bon de soutien, une enveloppe, il y aura une boîte à la sortie si vous voulez déposer quelque chose, un QR code si vous voulez faire un don en ligne. Donc deuxième très bonne nouvelle. Et donc la troisième, c'est que voilà, chaque soutien que vous pourrez nous apporter sera précieux. Donc merci par avance de votre générosité. Voilà, on a choisi cette année le thème de la pauvreté, avec un titre que vous voyez qu'on a voulu volontairement un peu provocateur, avec cet extrait de l'Évangile et puis cette question réalisme ou scandale, voilà, résignation ou révolte face à la pauvreté. Je crois que c'est quelque chose qu'on vit un peu au quotidien aux captifs. D'abord, c'est notre mission d'aller à la rencontre des plus exclus, des plus marginalisés, ceux vers qui pas grand monde ne va. Donc voilà, c'est notre réalité. Et cette question, je vais l'illustrer par un témoignage récent. On a eu la chance d'être à Rome ces derniers jours avec une délégation d'une quarantaine de personnes, des captifs, donc à la fois des personnes qu'on accueille, qu'on accompagne, des bénévoles, des salariés, pour le jubilé des pauvres, avec de très beaux moments de fraternité. Bon, il faut dire qu'on a commencé par 18 heures de trajet tous ensemble, entre le train, le bus de nuit, tout ça. Donc c'est bien, ça resserre les liens. Voilà, on a vécu des temps très forts. Et c'est vraiment des temps où on était pèlerins tous ensemble, voilà, quelle que soit notre situation. Le pape nous a vraiment encouragés dans ce sens-là. Le seul mot qu'il a dit en français, c'est « la fraternité, c'est la vie ». Voilà, mais ça résume bien l'état d'esprit de tout ce qu'il nous a dit. Et puis, on est rentré à Paris et on a chacun repris notre vie. C'est-à-dire que parmi toutes les personnes accompagnées ou accueillies par les captifs qu'on a emmenés, il y en a un certain nombre qui sont retournés à la rue avec le temps qu'on vit tous. Donc là, on est vraiment confronté à cette situation. On a vécu un temps unique de fraternité. Voilà. Et il y a une réalité qui est également un scandale d'un certain nombre parmi nous qui sont retournés à la rue. Voilà. Et du coup, face à ce qu'on vit au quotidien, il nous a semblé effectivement intéressant de faire dialoguer différents points de vue sur cette réalité de la pauvreté, donc sous la conduite de Nathalie. Je vais m'arrêter là, sachant qu'on sera heureux de poursuivre l'échange après la table ronde dans le temps convivial. Donc merci à nouveau pour votre présence et on a la chance donc d'accueillir Sylvie que j'invite à monter sur scène avec Paul. Merci Sylvie d'avoir accepté de nous partager ton témoignage.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Alors, il marche, il faut le laisser proche de la bouche. Alors, peux-tu te présenter en quelques mots ?
Bonsoir, donc je m'appelle Sylvie.
Voilà, et pour commencer, que veux-tu nous dire de ton parcours ?
Je veux dire que j'ai eu un parcours difficile. Je me suis retrouvée du jour au lendemain à la rue. C'était en 2026. J'habitais sur Combes-la-Ville avec mon époux et mon fils. Nous avons donc été expulsés. Mon ex-mari est parti. Mon fils est resté avec moi, mais bon, il avait 20 ans, donc il pouvait faire sa vie. Après, j'ai connu des associations à Savigny-le-Temple, donc du côté de la Seine-et-Marne. J'ai découvert le Secours populaire. J'ai mangé. J'ai été bénévole aussi au Secours populaire pendant 3 ans. J'ai travaillé un petit peu, j'ai été à l'hôtel, puis en hébergement, à l'hôtel, hébergement, dehors. Enfin bon, c'est le parcours que j'ai eu. J'ai été hébergé également sur Melun. J'ai laissé Melun pour Fontainebleau, hébergement à la rue, hébergement à la rue. Puis, eh ben, je me suis dit, je vais aller à Paris. Et en ayant été à Paris, j'ai trouvé que c'était plus facile qu'en banlieue. Et voilà, c'était plus facile qu'en banlieue, en fait. Voilà.
Et donc, tu disais qu'à la rue, personne ne savait quoi te dire comme conseil.
Non, parce que d'ailleurs, on ne rencontre personne quand on est dans la rue. On est seul, hein, on est livré à soi-même. Déjà, au départ, ça a quand même duré 2 ans où j'étais vraiment seul sans manger. Si, j'ai mangé, mais bon, sans boire. Sans... Je ne me suis pas lavé les cheveux pendant 2 ans. C'était vraiment très, très dur. Et ensuite, j'ai quand même rencontré des gens en maraude. Évidemment, dans les maraudes, il n'y a pas de solution. Hein. Je trouve qu'il y a quand même plus d'avantages... à Paris qu'en banlieue. On est beaucoup plus aidé à Paris qu'en banlieue. Voilà.
Et donc, tu es à Valgiros aujourd'hui?
Et donc, aujourd'hui, je suis à Valgiros parce que j'ai un petit peu malmené le 115. Donc, je me suis quand même défendu et je me suis retrouvé à Valgiros, hébergé à Valgiros.
Et avant de nous expliquer ce qu'est Valgiros, comment as-tu connu les captifs, du coup ?
Alors, j'ai rencontré les captifs parce que un jour, je me suis retrouvée dehors. Il y a une copine à M. Mélenchon qui s'est avancée vers moi pour me poser des questions. Elle m'a tendu sa petite fille. J'ai vu donc que c'était une copine à M. Mélenchon. Et elle m'a dit qu'il y avait une petite association qui s'appelle Le Filon, qui était à 2 rues d'où nous étions. Et elle m'a demandé d'y aller parce que j'étais dehors, j'étais avec une amie, on était dehors. Donc je suis allée voir Le Filon et les travailleuses sociales qui étaient au Filon m'ont dit que je ne pouvais pas rester encore un hiver à la rue. Donc elles ont écrit à Valgiros et à l'APA. Et c'est Valgiros qui a répondu en premier. Donc j'ai été voir M. Corentin, que certains connaissent. Et à la suite de l'entretien que j'ai eu avec Corentin, ben, j'ai pu intégrer Valgiros et j'ai dit oui. Donc j'ai intégré Valgiros. Et j'ai vu Corentin après une table ouverte. Voilà, c'est ce dont je me souviens.
Et donc, voilà. Ça fait combien de temps que tu es à Valgiros ?
Aujourd'hui, ça fait 3 ans. 3 ans que je suis à Valgiros.
Et alors, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas Valgiros, est-ce que tu peux expliquer en quelques
alors,
mots ce que c'est ?
Alors, Valgiros est un centre d'hébergement et de stabilisation donc, des captifs où il y a une trentaine de places, hommes et femmes, 3 étages. C'est un lieu familial parce qu'on se connaît tous, on s'aime tous en fait. Et on s'entend bien et on est libre. On est libre.
Merci. Alors, quand tu entends le thème de cette soirée, des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Qu'est-ce que ça t'évoque dans ta vie ? Est-ce que ça t'évoque une histoire ou une anecdote que tu as vécue ?
Ben, des pauvres, il y en aura toujours. Hein. Jésus a dit qu'il y aura toujours des pauvres. Et il y en a toujours eu. Hein. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Mais je trouve que c'est cruel aujourd'hui. Les pauvres, auparavant, échangeaient. Les gens ne mouraient pas de faim comme aujourd'hui. C'est vrai. Comme aujourd'hui. Je trouve que c'est très dur aujourd'hui d'être pauvre. Et pire encore, c'est la misère. La misère, on n'a rien, on n'attend rien. Et là, il faut toujours se battre pour avoir un toit. On est seul, en fait, on est seul à chercher. Moi, j'étais seul à chercher mon domicile. Et c'est vrai que je suis tombée sur les captifs Valgiros qui m'ont aidé à avoir un lit, un toit, à manger, de la culture. Je crois que.
Alors, tu disais que cette phrase ne te choquait pas.
Non, ça ne me choque pas parce que. ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est marqué dans la Bible. Hein, Jésus a dit qu'il y aura toujours des pauvres et que même avec le temps, il y aura toujours des pauvres de toute façon.
Alors, est-ce que tu veux nous dire, est-ce que tu penses de ce qu'il y a dans les écrits ?
Bah, ce qu'il y a dans les écrits, un passage que je retiens assez, c'est dans 2 Timothée 3, versets de 1 à 5, qui dit sache-le bien, dans les derniers jours surviendront des moments difficiles. En effet, les gens seront égoïstes, cupides, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, révoltés contre leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, incapables, médisants, incapables de se maîtriser, intraitables, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront des apparences de piété, mais rejetteront ce qui fait sa force. Détourne-toi aussi de ces gens-là. J'aime beaucoup ce passage parce que je pense que c'est ce que nous vivons aujourd'hui.
Et alors, en quoi les captifs t'ont aidé dans ta vie ?
En fait, les captifs m'ont aidé à avoir un lit, un toit. Je l'ai dit tout à l'heure. Je trouve que c'est important. De la nourriture, un lit, à manger, la culture aussi. Nous allons, nous sortons, nous avons visité des châteaux, nous allons au cinéma. On part un petit peu en vacances aussi. Dernièrement, certains sont partis en Normandie. Voilà. Puis voilà, on fait quand même pas mal de choses. Et en fait, je me suis aperçu que l'argent, c'était pas ce qu'on pouvait mettre en premier dans la vie. Je pense qu'on doit s'aimer les uns les autres, et en s'aimant les uns les autres, je pense que ça peut le faire. Je l'ai dit tout à l'heure, les 2 premières années, j'ai vécu dehors, j'avais pas d'argent. En fait, je me suis toujours demandé comment j'ai fait ces 2 premières années. Je me souviens même plus ce que j'ai fait. En fait, quand on est dehors, on se souvient plus. Certains boivent, certains se droguent, mais bon, c'est comme ça. Au début, quand on est à la rue, en fait, on ne sait pas quoi faire. Moi, maintenant, j'ai une autre philosophie de la vie par rapport à l'argent. L'argent m'est égal, en fait. Ouais, les gens m'est égal, ça m'est égal. Oui, je voulais parler des démarches administratives sur le net. Le travailleur social le fait parce que l'informatique, à mon âge, ça ne le fait pas. Même sur portable, hein, c'est quelquefois difficile. Donc, quand on a des démarches, les travailleurs sociaux sont là pour nous le faire.
Tu voulais parler d'autre chose que les captifs t'avaient apporté ?
En fait, ça me sera difficile parce que je ne vais quand même pas rester toute ma vie à Valgiros. Et j'ai quand même trouvé une belle famille. Et ça va être difficile pour moi quand je vais partir, ce que je voulais dire aussi. Ils nous aident beaucoup. Et je vois qu'ils travaillent beaucoup aussi. Il y a énormément de travail pour nous.
Merci, pas de souci. Alors, comment as-tu fait pour garder espoir jusqu'à aujourd'hui ?
C'est Dieu qui m'a permis de tenir. Et je pense qu'aujourd'hui, Dieu me tient encore, sinon je ne serais plus de ce monde. Et c'est vrai que j'ai la foi, Dieu m'a beaucoup aidé. Et j'ai des anecdotes, mais je ne vous les dirai pas ce soir. Et personne ne m'enlèvera cette foi envers Dieu. Et je m'aperçois aussi que les gens oublient beaucoup qu'il y a Satan, que Satan est là, qu'il se fait oublier, mais il est bien là. Et il y a des bonnes personnes dans la rue aussi. Il y a des amis qui m'ont donné beaucoup de choses alors que j'avais rien et eux-mêmes n'avaient rien non plus. Il y a de nombreuses C'est ce que je voulais dire. Voilà.
Merci. Qu'est-ce qui te donne de l'espoir dans ta vie actuellement ?
Ben, l'espoir, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a Dieu. Et c'est seulement Dieu qui me donne l'espoir de vivre. Et j'ai vraiment eu la main de Dieu sur moi. J'ai vraiment eu la main de Dieu sur moi à plusieurs reprises. Je suis toujours vivante. Le soleil brille pour tout le monde, les bons, les méchants. Et j'espère aussi que les gens que j'ai laissés dans la rue s'en sortent, parce qu'ils ont aussi le droit de pouvoir s'en sortir.
Et enfin, quel espoir tu as pour les autres personnes de la rue, justement ?
Ben justement, j'espère que ces gens vont s'en sortir, parce que vraiment, la rue, c'est dur. Moi, j'ai prospecté, parce que même dans la rue, au lieu de dormir, j'allais voir ce qui se passait dans la rue. J'ai vu des maisons en carton. J'ai vu des gens qui sortaient des matelas de je ne sais où pour y dormir. Et j'espère vraiment que ces gens vont s'en sortir. Même les gens drogués, les gens très, très alcooligés que j'ai rencontrés, ben, j'espère vraiment, vraiment au fond de mon cœur qu'ils vont s'en sortir. Mais ça va être dur pour eux. Parce que quand on est alcoolisé ou drogué, c'est très dur. Je trouve que les gens sont éteints. Je voyais que les gens étaient dans la rue en les regardant. Parce qu'il y a des gens aussi, comme moi, j'étais jamais sale, mais il y a des gens qui ne sont pas sales. Mais dans leurs yeux, je voyais vraiment qu'ils étaient dans la rue. Ouais. Et tout le monde les trouve répugnants, mais ils ne sont pas répugnants. On peut parler avec eux. On peut les aborder, ils vous répondent. Hein, ils vous répondent. Et j'espère vraiment que personne dans le futur va rester dans la rue avant qu'ils ne meurent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent. J'ai connu des gens qui sont morts aussi dans la rue. Et puis, il y a des gens qui s'en sortent, comme Azedine, qui était à Valgiros, s'en est sorti. Il a eu son petit appartement. Il y a un monsieur qui s'appelait Maury aussi, qui est parti. J'espère pour lui que ça va bien. Et puis, il y en a d'autres qui ont retrouvé leur famille à Valgiros. Et puis, y a des gens qui s'en sortent.
Eh ben, très bien. Merci beaucoup, Sylvie.
Je vous en prie. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé. Hein. Je vous remercie.
Merci Sylvie. Et voilà, nous accueillons Nathalie et nos invités.
Bonjour à tous. Alors, j'espère que voilà, vous m'entendez. Donc, merci d'être venu. Je suis très heureuse d'animer cette table ronde sur des pauvres, vous en aurez toujours, réalisme ou scandale. Donc, on va être ensemble jusqu'à 20h25. Je vous passerai la parole. Si vous avez des questions pour les intervenants, ce sera à partir de 20h10, 20h15. Donc, n'hésitez pas. Et puis, on organisera un passage de micro pour que vous puissiez vous-même interroger notre beau parterre d'intervenants. Donc, on a choisi de réunir, les captifs ont choisi, ils m'ont demandé de réunir des personnes avec des expertises différentes. Donc, nous avons Louise de Carrère. Donc, Louise de Carrère, vous êtes le regard terrain. Donc, vous avez été, vous êtes depuis quelques semaines directrice du pôle précarité aux captifs La Libération. Et vous étiez avant au pôle hébergement, donc vous avez des tas d'histoires à nous raconter. Isabelle Dorès, vous êtes la voix associative. Vous êtes vice-présidente de l'association ATD Carmonde, qui a été créée par le père Wrzesinski pour porter la parole des plus pauvres. À ce titre, vous représentez les associations de lutte contre la pauvreté au Conseil économique, social et environnemental. Et puis, vous avez été bénévole pendant 30 ans, donc vous connaissez aussi très bien le terrain. Frédéric Poulet, vous êtes la théologienne de la bande. Vous connaissez bien la maison, puisque vous enseignez la théologie ici, et aussi à Notre-Dame, à la faculté Notre-Dame. Et puis, vous avez été aussi aux apprentis d'Auteuil. Vous avez suivi des campagnes d'Emmaüs, donc vous connaissez le terrain aussi. Donc on n'a que des gens qui ont une double expertise. Alain Régnier, vous serez notre monsieur politique public. Donc Alain Régnier, il a fait plein de choses. Sa dernière fonction, c'était délégué interministériel pour l'intégration des migrants. Avant, il a conseillé le gouvernement en matière de politique d'exclusion. Et puis, il a été de 2008 à 2014, je ne sais pas, mais délégué interministériel, en gros, sur notre sujet, sur le logement des sans-abri et des mal-logés. Alors, pour commencer, j'ai envie de faire un sort à cette citation. Donc, des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais vous ne l'aurez pas toujours. C'est ce que dit l'évangile de Saint Jean. Frédéric, vous pouvez nous éclairer, ça veut dire quoi ?
Alors, je crois qu'il faut d'abord faire attention à cette citation. C'est vrai que si on la prend brute, comme ça, de décoffrage, elle peut choquer. C'est-à-dire qu'elle peut, elle pourrait nous dire « Occupez-vous de moi, le Christ, et les pauvres, vous en aurez toujours, donc de toute façon, vous pourrez vous en occuper plus tard. » Alors, j'ai envie de resituer le passage pour bien le comprendre. C'est-à-dire, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, Jésus vient de guérir Lazare, donc il a ressuscité quelqu'un qui était dans la mort et les sœurs de Lazare étaient dans la détresse, donc il vient de revivifier Lazare, de lui rendre la vie, et puis il monte résolument vers Jérusalem où il sait très bien ce qui l'attend, il sait qu'il va y mourir. Et donc l'épisode dont est tiré ce passage est juste avant l'arrivée à Jérusalem, et il fait halte chez ses amis à Béthanie, justement pour revoir Marthe, Marie et le fameux Lazare qu'il a revivifié, qu'il a ramené à la vie. On sait aussi dans l'évangile, c'est juste le chapitre qui précède, que les Juifs ont déjà résolu de le condamner à mort. Donc on est vraiment dans une ambiance assez tragique, et ce sont vraiment les derniers instants de la vie de Jésus. Et il ne faut pas oublier que Marie s'était précipitée aux genoux de Jésus, déjà, quand Lazare était mourant, enfin qu'il était déjà mort et qu'il sentait. Et dans le texte, on le voit, elle se met à genoux devant Jésus en lui disant « Mais si tu avais été là, il ne serait pas mort. » Et là, on voit Jésus qui pleure sur son ami Lazare, donc qui pleure sur le malheur des hommes et qui revivifie Lazare. Et là, on retrouve le même geste de Marie qui, à nouveau, se jette aux pieds de Jésus. Et en fait, on peut d'abord voir le geste qu'elle pose, c'est-à-dire l'onction de Béthanie, c'est-à-dire elle va verser du parfum sur les pieds de Jésus comme un geste de remerciement. Parce que c'est un geste d'amour pour remercier son ami qui lui a redonné son frère. Voilà, si on le resitue dans ce contexte-là, on comprend mieux.
Et les pauvres.
Donc, ce parfum, on dit, elle verse sur les pieds de Jésus un parfum de grand prix. Or, on voit même dans le texte qu'on parle de 300 deniers. Alors, on ne se rend pas trop compte. 300 deniers, c'est l'équivalent d'une année de salaire, à peu près, à l'époque. Donc, c'est quand même énorme. Donc, elle verse vraiment un parfum énorme. Et là, il y en a un qui va contester le geste. Et ce un qui conteste le geste, c'est Judas. Judas, qui tenait les cordons de la bourse, et qui va dire « Ah, le prix de ce parfum, c'est-à-dire, on pourrait dire le prix de cet amour, on aurait pu le donner aux pauvres. » Voilà, vous voyez, il faut vraiment le resituer dans le texte. Et en fait, la réponse, elle ne vient pas de Marie, qui aurait pu dire « Laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire, je l'aime, je dépense pour qui je veux. » La réponse, elle vient de Jésus. Et Jésus, lui-même, va dire « Les pauvres, vous en aurez toujours, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Et ce qui est important dans le texte, là, c'est le toujours, pas toujours. Jésus va mourir. Donc, il est en urgence absolue. Et c'est celui-là qui est en état d'urgence absolue. Et en plus, son ami Lazare va être aussi condamné par les religieux, parce qu'ils se disent, Lazare étant revivifié par Jésus, ça va nous faire du tort, vaut mieux qu'on le tue avec. Donc, vous voyez, il y a deux personnes en état d'urgence absolue. Et quand Jésus dit « Les pauvres, vous en aurez toujours, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours », vous voyez, il déclare les situations d'urgence. Et ça, vous les connaissez, vous qui êtes sur le terrain. Quand on a quelqu'un en état d'urgence absolue, on va d'abord s'en occuper. Et ensuite, le Christ dit Voilà, les pauvres, vous en aurez toujours. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les s'en occuper, mais voyez, il y a une espèce de priorité. Et l'amour dont Marie aime Jésus, eh ben on le retrouvera parce qu'elle se met à ses pieds, elle verse du parfum, elle les essuie avec ses cheveux. Si on prend le texte du lavement des pieds qui suit, c'est exactement les mêmes verbes. Jésus se met à genoux aux pieds de ses disciples, prend de l'eau et les essuie. Et si on regarde, c'est exactement les mêmes verbes. Et j'aime bien penser que le geste d'amour fou de Marie a donné l'idée à Jésus de nous apprendre comment aimer. Et en fait, c'est ça. Il nous dit, je suis celui qui est en état d'urgence absolue, mais il nous montre ensuite, le chapitre suivant, comment aimer. Et donc, en fait, ben, les pauvres, oui, vous en aurez toujours, et maintenant, c'est comme ça qu'il faut les aimer. Voilà ce que j'ai envie de dire à propos de ce verset.
Alors, les pauvres, mais on parle de qui, au fond ? Isabelle, dites-nous un petit peu, c'est quoi la pauvreté ? On parle de pauvreté monétaire, les gens qui sont sous le seuil de pauvreté, mais ce n'est pas que ça, la pauvreté. Au téléphone, vous me disiez, c'est ceux qui cumulent les incertitudes. Comment est-ce qu'on peut les définir, les pauvres ? De façon académique et puis dans votre expérience.
Oui, merci beaucoup. Sylvie nous a dit tout à l'heure qu'être pauvre aujourd'hui, c'était dur. Donc, je voudrais d'abord dire qu'en effet, être pauvre aujourd'hui, c'est dur. On est dans une situation très grave, en fait, en France. On est dans une démocratie aujourd'hui qui s'abîme fortement. Et on est quand même à 12 millions de gens sous le seuil de pauvreté aujourd'hui. On n'a pas eu un taux aussi fort depuis 30 ans. On est à 15,9% de la population. 15,4%. Voilà. Donc c'est et alors on a une hausse des expulsions, on a voilà des enfants à la rue qu'on n'avait plus, une explosion de l'aide alimentaire. Enfin voilà. Donc une situation tout à fait catastrophique, avec une stigmatisation très forte des gens en situation de pauvreté et du coup des gens à qui on demande de plus en plus, c'est-à-dire aujourd'hui on responsabilise les personnes de leur situation. On les rend responsables de ce qu'ils sont et de ce qu'ils vivent et on les culpabilise à mort. Donc, on en fait, en fait, des non-citoyens. Voilà. Donc, le problème du pauvre aujourd'hui, c'est qu'il n'est plus reconnu dans notre société comme un citoyen à part entière. Et donc, cette situation est vraiment catastrophique et je pense qu'il faudrait qu'on réagisse pour restaurer notre démocratie malade. Alors, qu'est-ce que c'est la pauvreté ? Alors, oui, alors, la pauvreté, souvent, on la cite juste, en effet, de façon monétaire. Donc, l'INSEE a deux façons de qualifier traditionnellement la pauvreté. D'abord, en pauvreté monétaire, qui est une mesure relative, c'est-à-dire on calcule le 60% du revenu médian touché par tout le monde, et ça nous donne 1 288 €. Et donc, les gens qui sont en dessous de ces 1 288 € sont en situation de pauvreté. Mais ça ne dit pas grand-chose par rapport aux besoins. C'est-à-dire cette mesure-là, en fait, elle se base pas du tout sur des besoins pour vivre, pour avoir une vie digne. Elle se base sur un revenu médian qui peut être complètement déconnecté et qui est de plus en plus déconnecté des besoins, en fait, et du chiffrage des besoins pour avoir une vie digne. Donc l'INSEE a développé de plus en plus et se base de plus en plus sur une autre mesure qui s'appelle la mesure sur les conditions de vie. Donc on prend 13 privations, hein, des privations comme ne pas pouvoir se payer deux paires de chaussures par an, ne pas pouvoir se payer des vêtements neufs, hein, voilà, 13 privations, et quand on a 5 de ces privations, on est en situation de pauvreté. On trouve à peu près les mêmes chiffres de gens en situation de pauvreté avec cette définition-là. Voilà, mais ça reste très relatif et ne reflétant pas tellement ce que peut être cette pauvreté. Du coup, il y a des essais aussi. Hein, l'INSEE essaye d'avancer aussi quand même pour refléter plus. Parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est que tous les rapports des grandes associations, tout ce que vivent l'ensemble des associations avec les pauvres, ben, ils disent que la situation est catastrophique et les chiffres ne nous disent pas que c'est si catastrophique que ça, finalement. Donc, c'est quoi ce décalage ? Le décalage, il est de plus en plus grand entre ce que dit la statistique, entre ce que disent les politiques et les réalités vécues sur le terrain. Donc, comment on fait ? Donc l'INSEE développe aussi quand même des études sur le sentiment de pauvreté. Et en fait, quand on demande aux gens « est-ce que vous vous sentez pauvre ?», ce n'est pas tout à fait les mêmes qui répondent ça. Il y a des très pauvres qui ne répondent pas forcément qui se sentent pauvres. Et par contre, il y a beaucoup plus de gens en catégorie, on pourrait dire moyenne, qui ne sont pas forcément sous le seuil de pauvreté et qui se disent pauvres aujourd'hui. C'est un complément intéressant, beaucoup plus qualitatif. Et après, vous avez d'autres organismes comme l'ONPES qui, par exemple, fait un baromètre de la pauvreté de la situation deux fois par an en interrogeant un certain nombre d'acteurs sur le terrain. Alors, à TD Quart-Monde, nous, on croit vraiment que la pauvreté, d'abord, peut être éradiquée parce qu'on pense que c'est une violation d'abord des droits de l'homme et que c'est une création sociétale. Donc, si la société laisse de la pauvreté et qu'elle la crée, ça veut dire qu'elle peut aussi la défaire si elle en prend les moyens. Donc, c'est d'abord ce à quoi on croit très fort, du moins pour la grande pauvreté. Bien sûr, il y aura toujours des pauvres, des riches, enfin, des décalages. Mais surtout, donc au CESE, il y a eu un rapport très important en 1987, écrit par Joseph Brzezinski, qui a donné une définition de la précarité économique et sociale et de la grande pauvreté. Cette définition est aujourd'hui celle qui est reprise par l'ONU, qui définit donc toutes les politiques de lutte contre la pauvreté au niveau international. Et elle définit, alors la précarité, en fait, c'est quand vous avez une fragilité, une insécurité par rapport à un droit. Donc ça peut être une insécurité par rapport au logement, une insécurité par rapport au travail, par rapport au droit de vivre en famille. Voilà. Vous avez une insécurité qui fait que vous êtes dans une situation précaire, mais il vous reste d'autres sécurités qui vous permettent éventuellement de trouver les ressorts pour réagir ou du lien social qui vous permet de réagir. Quand vous êtes dans la grande pauvreté, c'est qu'en fait, vous cumulez ces insécurités à un tel point que dès que vous essayez de réparer quelque part, en fait, tout se casse la figure ailleurs, etc. Et vous pouvez, en fait, vous perdez votre pouvoir d'agir et vous ne pouvez plus assurer tout seul votre propre responsabilité, en fait. Vous n'avez plus le moyen d'agir sur votre vie. Et du coup, vous rentrez vraiment dans une situation de dépendance. Et vous allez toujours dépendre des autres. Et les autres vont toujours décider de ce qui est bon pour vous et de ce qu'il faudrait faire. Voilà, sans prendre en compte qui vous êtes. Et donc, on a essayé aussi de trouver d'autres dimensions de cette pauvreté. Donc, on a travaillé avec l'université d'Oxford dans plusieurs pays du monde pour trouver c'était quoi les dimensions pour caractériser cette pauvreté vraiment, pour ne pas rester à cette dimension monétaire. Et donc, on a trouvé dans tous ces pays-là qu'il y avait des dimensions qui étaient communes à l'ensemble des pays. Alors, ces dimensions, c'est d'abord que les pauvres sont toujours dans le combat, sont toujours partagés entre un combat quotidien, parce que vivre au quotidien la misère ou la grande pauvreté, c'est très dur. Il faut toujours se battre, trouver des solutions au jour le jour, etc. Donc ce combat quotidien et la dépendance, parce qu'en fait, on est toujours dépendant des décisions des autres ou de ce qu'on vend bien, il faut leur faire les autres. Et après, les autres dimensions, ça peut être aussi donc dégradation de la santé, maltraitance sociale, maltraitance institutionnelle. Enfin, je crois que je prends beaucoup de temps, donc je vais essayer. Bon, je vais vous les citer quand même. Privation matérielle et de droits. Donc là, on rejoint un petit peu les dimensions monétaires, mais aussi les privations de droits qui sont importantes. L'isolement, qui est vraiment une dimension très forte. Hein, c'est ce que Sylvie a dit, on est tout seul. Les peurs et souffrances qui ne sont absolument pas prises en compte, c'est-à-dire comme c'est comme si les pauvres n'avaient pas d'émotions, pas de sentiments. Voilà, on ne prend jamais en compte que c'est très dur de vivre ça et que du coup, on a vraiment des peurs, des souffrances, des anxiétés très fortes. Des contraintes de temps et d'espace parce qu'on se projette dans le court terme. À force d'être juste au jour le jour, on n'a plus qu'un horizon très fermé, en fait. Et donc, ces contraintes fortes. Et surtout, des compétences acquises qui ne sont jamais reconnues. C'est-à-dire, quand on vit la pauvreté, il faut toujours qu'on se débrouille, qu'on acquiert des compétences, qu'on développe des choses, en fait, pour pouvoir s'en sortir. Et ça, personne ne les reconnaît, personne ne les met en avant et personne n'en fait rien. Or, dans un monde qui est de plus en plus insécurisé et instable, on a des gens qui savent gérer l'insécurité au jour le jour. Et c'est certainement des compétences qui sont très importantes pour notre société aujourd'hui.
Oui, donc c'est vraiment multifactoriel, c'est pas qu'une histoire d'argent. On voit malgré tout que même, comme vous dites, les chiffres ne disent pas tout, mais ils augmentent. Dans les années 70-80, on avait réussi à faire baisser la pauvreté. Il y a eu un tournant dans les années 90, puis elle remonte jusqu'à atteindre record. Donc on a parlé d'un taux de pauvreté de 15,4%. Alain, du coup, comment ça se fait qu'on n'y arrive pas? Que fait l'État? Pourquoi on n'arrive pas à faire diminuer cette pauvreté?
Bien, merci de l'invitation. Bonsoir à tous. Je voudrais tout d'abord, puisqu'on parle d'action publique, saluer la mémoire de Xavier Emmanuelli qui nous a quittés fin de la semaine dernière et qui a été un grand personnage, un grand homme avec beaucoup d'humanité et qui a, sur ces sujets de la pauvreté, fait bouger les lignes dans notre pays. Donc je voulais lui rendre hommage ce soir. Ce qui a changé, et vous l'avez dit Nathalie, j'ai un retour sur une trentaine d'années de politique publique. Je dirais premièrement le regard porté à la pauvreté. En 1988, on adopte à l'unanimité le RMI à l'Assemblée nationale. Et dès le début des années 2000, il y a une majorité de Français qui pensent que c'est pas bien le RMI. Donc il y a déjà assez rapidement une évolution dans les représentations sur, et cela a été dit avant moi, sur le fait que d'une approche très charité, on est passé à une approche très responsabilité individuelle avec t'as qu'à te bouger et trouver ta solution. Cette dureté, cette perte d'empathie s'est développée considérablement au cours de ces dernières années, à tel point, j'en veux pour preuve, il fait très froid depuis deux jours. Avec Dominique Versini, il y a 20 ans, on a monté les plans hiver. On a essayé de développer une approche très humaine en période de grand froid. Et c'était devenu un marronnier dans la presse et dans les médias de faire des reportages. Dès qu'il y avait une baisse de température, on allait sur le terrain interviewer des sans-abri, des maraudeurs. Maintenant, ça a quasiment disparu du service public. On interroge les gens, pour les touristes, les skieurs, pour qu'ils ont du mal à mettre leur chaîne quand il fait froid et qu'il y a de la neige qui tombe. Mais on s'intéresse de moins en moins à la vulnérabilité, à la pauvreté. C'est donc, je dirais, pour moi, en tant qu'acteur public, ce qui a vraiment changé, c'est le regard porté par la société, par les Français, sur les plus pauvres d'entre eux. Deuxièmement, la démographie de la société française, le vieillissement, les nouvelles formes de précarité liées à ce vieillissement de la population. Et la figure traditionnelle, il y a 30 ans, du clochard, s'est complètement mutée avec l'émergence de familles monoparentales à la rue, avec des étudiants qui font la queue devant la distribution alimentaire. Donc toute la société, en une vingtaine d'années, a considérablement bougé en termes de sociologie et de besoins de réponses par l'État-providence, donc par les gouvernements successifs. Ce qui a aussi complètement changé en 20 ans, c'est la place de l'étranger dans les situations de pauvreté et de précarité. Je rappelais tout à l'heure, il y a une vingtaine d'années, avec Dominique Versini, il y avait 3 000 mineurs isolés. On en a 30 000 aujourd'hui. La réponse en termes de mise à l'abri hôtelier était de 5 000 en 2002. Et aujourd'hui, il y a plus de 100 000 chambres d'hôtel nuitées qui sont mobilisées chaque nuit par l'État pour héberger des situations essentiellement de migrants en situation irrégulière. Donc, cette dimension de cette partie du public a considérablement augmenté. Avec une vraie difficulté, c'est qu'il n'a pas, tant qu'il est en situation irrégulière, il ne remplit pas les conditions juridiques pour accéder à un logement. Donc ça amène à des situations où on va avoir des années durant des mêmes familles dans des situations hôtelières, en changeant d'hôtel tous les 6 mois, tous les 2 mois, plus. Donc ça pose une question sur la scolarisation des enfants. Donc la manière aussi dont notre société s'est durcie, et c'est aussi durci dans le regard porté sur l'étranger, qui est le principal bouc émissaire des problèmes de la France aujourd'hui par bon nombre de témoignages et de médias qu'on entend à longueur de journée sur la place de l'étranger. Ensuite, on n'est pas resté non plus sans réponse. Je voudrais quand même vous dire que la réponse publique est passée en 20 ans de 1,5 milliard d'euros par an sur l'hébergement, que ce soit l'hébergement dit généraliste ou l'hébergement des migrants, à quasiment 5 milliards aujourd'hui. 5 milliards d'euros, c'est l'une des toutes premières dépenses d'intervention de l'État pour, finalement, de l'aspirine. Puisque vous n'apportez pas de réponse structurelle, mais vous mettez les gens à l'abri. Et cette augmentation continue des capacités d'hébergement, et notamment de l'hôtel qui représente aujourd'hui 25% de la réponse de l'État, moi, je me suis souvent plaidé en disant on arrive à un tel point où l'État devrait être hôtelier lui-même plutôt que d'engraisser tous ces hôteliers qui, en Île-de-France, ferment des hôtels touristiques pour loger, avec le SAMU social de Paris, les familles, essentiellement des familles à la rue. Donc, on est dans une sorte d'impasse. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu une réaction, mais c'est une réaction qui, encore une fois, est monétaire et est insuffisante puisqu'elle ne permet pas tous les jours. Il y a plusieurs milliers d'enfants qui sont à la rue, il y a des 115 qui sont bloqués. Mais on a aussi changé d'approche. Je voudrais quand même souligner qu'à partir de 2011-2012, on est passé d'une approche dite en escalier dans la réponse en matière d'hébergement et d'accès au logement, une réponse dite de logement d'abord, qui est une réponse plus globale et qui permet à des personnes de passer de la rue au logement directement. Et je pense que grâce à ça, on a à peu près mis dans le logement 800 000 personnes sur les chiffres de la délégation interministérielle à l'hébergement sur les 5 ans jusqu'en 2023. Donc il y a eu des avancées significatives et on a eu aussi une vraie avancée sur la participation des personnes accueillies dans les dispositifs d'évaluation et de construction de politiques publiques avec la création du comité consultatif des personnes accueillies qui a été régionalisé et qui a permis une véritable avancée. Je l'ai porté, donc je peux en parler. J'ai eu une résistance très forte des acteurs contre la mise en place de cette participation dans un pays où on n'aime pas entendre les personnes en tant qu'acteurs de politique publique. Elles sont considérées comme des sujets de politique publique. ATD Quart-Monde a été très pionnier avec ses universités, avec tous les dispositifs que vous avez développés. Donc, un bilan très contrasté, c'est-à-dire une précarité globale qui progresse au-delà du monétaire avec des problématiques qu'on n'avait pas il y a une vingtaine d'années, la santé mentale, les addictions, enfin tout ça, ça heurte des réponses dans un pays très éclaté avec trop d'acteurs, trop de compétences publiques. Donc en Île-de-France, il y a 8 départements, il y a 8 fonds solidarité logement, il y a 8 politiques, il y a 8 CAF différentes, il y a 8 CPAM différentes, et on est infichu d'arriver à une mise en cohérence de tous ces acteurs. Donc il y a une vraie révolution aussi institutionnelle et politique, mais tout ça va dépendre de la volonté de faire quelque chose. Voilà. Et finalement, tous les gouvernements successifs depuis une trentaine d'années ont réagi, ont tenté d'apporter des réponses, mais ont-ils eu, et c'est une question que je pose en tant qu'haut fonctionnaire désormais en retraite, est-ce qu'on a eu vraiment envie de traiter le problème ? Si on avait...
Si même le haut fonctionnaire dit ça.
C'est une vraie question. On parle de moyens. On a mis des moyens, on a mis des actions publiques, on a fait des choses. Mais est-ce qu'on avait, c'est la question de cette table ronde, est-ce qu'on a eu vraiment l'ambition de traiter le problème et d'y apporter des réponses pérennes et structurelles. Voilà, j'en veux pour preuve qu'en 2002, l'une des propositions portées par Dominique Versini était une campagne nationale de communication sur changer le regard en 2002. 6 millions d'euros. On n'a jamais eu l'accord du gouvernement pour mettre en place cette campagne de communication. Quelques années plus tard, pour faire une maison à 15 euros, je ne citerai pas le nom du ministre concerné, on a dépensé 8 millions pour faire une publicité nationale pour acquérir une maison à 15 euros. Je ne sais pas combien de personnes dans la salle se rappellent de ce qu'est cette maison à 15 euros. Mais voilà, c'est tout ça pour dire qu'on est dans une tension. Et c'est pour ça que j'essaye de ne pas être manichéen. Hein, nous, on est nous-mêmes en contradiction sur un certain nombre de sujets et de la manière dont on réagit. Mais les politiques publiques sont aussi dans ces tensions de société avec des Français qui sont aussi en demande d'efficacité de l'action publique et d'un coût. Encore une fois, je vous disais, 5 milliards d'euros, c'est une somme considérable qui est utilisée, pas forcément pour moi, à bon escient.
Alors, un État mastodonte, mais qui n'arrive pas au résultat voulu. J'ai envie de changer de focal. On va se tourner vers l'associatif. Au captif, comment on prend le sujet ? Quels sont vos publics ? Comment vous allez vers eux ? Il y a une méthode captif, vous allez nous expliquer. Et puis, quand vous allez vers eux, vous entendez des histoires, vous voyez les parcours évoluer. Qu'est-ce que vous voyez et comment se prend à bout de bras ce problème de pauvreté au captif ?
J'ai envie de commencer par reciter Sylvie, si tu me permets. Sylvie qui disait « À la rue, on est seul ». Et donc, je pense qu'une des réponses la réponse des captifs, c'est d'aller à la rencontre des personnes qui sont soit en situation de prostitution, soit sans abri, donc en situation de précarité, sur leur territoire de vie. Donc, il y a des binômes de bénévoles et de salariés ou de bénévoles qui vont à leur rencontre. Et je vais citer une deuxième fois Sylvie, tu vas être récitée ce soir, qui disait tout à l'heure « On n'a rien, on n'attend rien ». donc c'est les personnes de la rue qui disent ça, au travers de notre présence dans les tournées rues. Je pense que c'est, je ne comptais pas le dire, mais quand tu l'as dit, ça me saute aux yeux de se dire, en fait, ce sont des personnes qui n'attendent plus rien. Et notre présence, elle est là en tout premier lieu pour retrouver, pour les aider à retrouver la dignité qui a été perdue, qui a été enfouie au fur et à mesure des années de rue. Donc on va dans la rue les mains nues, sans rien. Donc on n'a pas de café, on n'a pas de, on n'apporte rien de matériel. Parce que l'idée, c'est de d'abord remettre, enfin, avant de proposer une prestation sociale, c'est de remettre la relation au cœur de l'échange qu'on peut avoir avec eux. Donc ça prend du temps. Je peux vous raconter l'histoire de Naïma, je trouve, qui illustre un peu la façon dont les captifs approchent les personnes de la rue. Naïma, elle a été connue en 2012 par nos équipes de Maquero, dont tu nous représentes, enfin presque une représentante est là. 2012, elle est arrivée à Valgiros. Alors, je sais pas. Elle est arrivée à Valgiros 2023, me confirme Sylvie. Voilà, 11 ans pour arriver jusqu'en centre d'hébergement. Pendant ces 11 ans, alors, comme l'a décrit Sylvie, il y a des tentatives d'hébergement puis de retour en rue qui ne sont pas que dues au dispositif public, qui sont dues aussi à l'état psychique de la personne qui va s'auto-exclure, qui ne supporte pas le cadre, qui ne supporte pas d'être enfermée, qui ne supporte pas de. Voilà, d'être privé de sa bouée de sauvetage qui est l'alcool. Mais c'est 10 ans de relations avec des équipes de bénévoles et des équipes de salariés qui ont permis à Naïma de retrouver une certaine forme de dignité pour qu'elle, au bout d'un moment, qu'elle puisse d'elle-même demander un hébergement plus stable. Et je trouve que c'est important d'entendre que, oui, peut-être que les pouvoirs publics ne font pas suffisamment pour proposer un logement d'abord, voilà, mais il y a aussi respecter le rythme de la personne. Et ce respect, il est important parce que ça, enfin, arriver avec nos propres désirs, enfin voilà, c'est sûr que je pense que les bénévoles de l'époque avaient très envie que Naïma soit dans un centre d'hébergement, mais si ça vient pas de Naïma, c'est quand même compliqué. Donc ça prend du temps. Donc oui, il y a peut-être 2-3 ans de visite en rue. Toujours le même binôme qui la visite toujours la même heure, toujours le même jour dans la semaine. Et puis, petit à petit, elle accepte de venir en permanence chez nous pour prendre un petit café, jouer au domino ou Uno, tout un tas de jeux. Voilà, donc, on est patient jusqu'à ce que là, enfin, jusqu'à ce qu'il y ait une demande qui puisse émerger. Et ce temps, il est très long. Et puis après, voilà, on peut, comme disait Sylvie, faire un séjour. Et puis au travers d'un séjour, la demande elle émerge de plus en plus. Et puis on accepte sa propre histoire, et puis on accepte qui on est, et on retrouve une part de sa dignité. Voilà. Enfin, je trouve qu'en tout cas l'histoire de Naïma illustre assez, je dirais pas parfaitement, mais illustre bien quand même le parcours qui peut être proposé aux captifs de la rue, en passant par des activités de dynamisation, l'accompagnement social sans lequel on n'arriverait pas à une situation d'hébergement. Et puis l'hébergement, voilà. Aujourd'hui, Naïma, Sylvie l'a visitée il n'y a pas longtemps, elle a pu être, après 3 ans à Valgiros, elle a pu être orientée en EHPAD, où elle s'est fait de nouveaux amis encore, mais garde beaucoup de liens avec Valgiros. Voilà, c'est important de garder sa liberté et de respecter la liberté de la personne. Je pense que ce n'est pas dissocié du discours des pouvoirs publics, ou peut-être qu'on ne propose pas assez, mais il faut aussi suivre le rythme de la personne. Et je pense que dans la façon dont on les accompagne, c'est important.
Donc le temps long, et puis donc la maraude à main nue, c'est-à-dire le lien d'abord, la fidélité, les mêmes personnes qui viennent à la même heure, ça c'est la méthode captive. Mais est-ce que, je pose la question aux quatre, qui veut. Qu'est-ce qui marche en fait? Qu'est-ce qui fait qu'on s'en sort? Des pratiques associatives ou bénévoles? Une politique publique? Une façon d'être en tant que personne? Qu'est-ce qui marche? Isabelle Doré, ça t'est des carrément.
En fait, les personnes, ce dont elles souffrent surtout, c'est de ne pas être reconnues comme acteurs. Et en fait, ce que demandent les personnes en situation de pauvreté, souvent, quand vous travaillez un peu avec eux, c'est pas d'avoir plus d'argent, c'est pas forcément d'avoir un logement tout de suite. Enfin, voilà, c'est d'être reconnu, reconnu comme un citoyen ou comme un acteur qui peut faire des choses, qui peut mettre ses compétences au service d'eux. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est de travailler ça et de donner les moyens d'être acteur. Donc, par exemple, enfin, nous, on a eu un projet qui s'appelait Emplette et Cagette, où les gens, qui est une sorte de collectif d'achat uniquement entre personnes en situation de pauvreté, qui s'organisent pour acheter collectivement, pour travailler avec des agriculteurs, etc. Et voilà, ça n'a pas fondamentalement changé la vie des gens. Mais par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est que des gens qui n'osaient pas du tout parler, ben aujourd'hui, grâce à ce projet, ils arrivent à prendre la parole, ils arrivent à participer. Ils ont retrouvé des liens sociaux avec d'autres qu'ils n'avaient plus du tout. Donc voilà. Donc c'est vraiment redonner de la place aux personnes et être attentif en fait à ce qu'ils sont, en effet, les prendre en compte. Et donc, ce qui est très important, c'est de trouver aussi les moyens de comment on retrouve la parole, comment on retrouve du pouvoir d'agir, comment on permet d'avoir aussi la parole ou le vécu des plus pauvres qui est transmis à la société. Et ce n'est pas évident parce qu'en fait, les plus pauvres aussi souffrent de ce qu'on appelle les injustices épistémiques, c'est-à-dire en fait, ils ont... Quand un plus pauvre témoigne de sa vie, même face à un travailleur social, le travailleur social ne va pas croire la moitié de ce que dit l'autre. Parce que ça paraît tellement bizarre, tellement décalé par rapport à sa propre vie et ses propres représentations que ce n'est pas entendable. Et du coup, les plus pauvres sont privés en fait, de pouvoir témoigner. Ils sont privés aussi de contribuer parce que c'est ça, ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont développé. Ils n'ont pas l'occasion de le mettre à contribution, on ne leur donne pas l'occasion. Ils sont privés souvent d'interprétation du monde parce qu'on ne leur a pas donné les outils aussi pour décrypter ce qui se passe autour d'eux. Et ils sont privés souvent de transmission parce que dans beaucoup de situations de gens en situation de pauvreté, on a retiré les enfants, etc. Et on est souvent sur des métiers qui n'intéressent personne, où on développe des savoirs qui finalement dont on ne demande pas la transmission. Donc il faut vraiment arriver à travailler aussi ces représentations du monde. C'est ce qu'on essaye de développer beaucoup. Donc, par les universités populaires justement, que vous évoquiez, hein, où justement c'est des experts qui viennent écouter ce que les gens en situation de pauvreté ont à dire sur un sujet pour essayer de mettre en avant ce savoir-là et le confronter au savoir de l'expert. Et c'est ce qu'on a développé aujourd'hui, une méthode qui s'appelle le croisement des savoirs, qui permet de confronter les représentations du monde des gens en situation de pauvreté et des professionnels. Et ça demande quand même beaucoup d'attention et beaucoup de précautions pour vraiment respecter justement le rythme des personnes et aussi que ce ne soit pas juste un étalage d'histoire ou de témoignage, mais que ça repose bien sur des pensées collectives des plus pauvres par un vécu commun et qui se retraduit. Voilà, je sais pas si... et en fait, ces savoirs-là sont importants. Nous, ils nous ont permis de gagner, aujourd'hui c'est bien détricoté, mais il y a eu une grande loi de lutte contre les exclusions en 1998 qui est née d'un rapport au CESE encore, d'évaluation des politiques publiques fait par Geneviève Antonios de Gaulle. Et ce rapport-là, il était fondé en fait sur justement tous des recueils d'universités populaires. Il y a plus de 700 personnes en situation de pauvreté en fait qui avaient participé à des événements, etc., pour dire ce qu'ils voulaient, comment se passait leur vie et tout ça, et ce qu'on pouvait faire. Et cette loi contre les exclusions, c'est globalement ce qui... il y a le RMI qui était juste avant, mais ça mettait bien en avant la nécessité du droit des moyens convenables d'existence comme un droit essentiel. Ça a permis de mettre en place le DALO, ça a permis de mettre en avant le droit aux vacances, le droit au loisir, de faire reconnaître aussi, surtout, la responsabilité des pouvoirs publics. C'est-à-dire, ce que disait cette loi, c'est que lutter contre la pauvreté est un impératif de l'ensemble des politiques publiques et que, quand il y a eu l'anniversaire un peu de cette loi et du rapport Wresinski au CESE, il y a eu une phrase qui a été mise à l'avant du CESE qui est « Considérer les progrès de la société à l'aune de la qualité de vie du plus démuni et du plus pauvre, et ce qui fait la dignité d'une nation. » Et voilà. Donc, c'est en fait, ce qu'il faut vraiment rappeler, à partir de la parole des plus pauvres, c'est cette responsabilité des pouvoirs publics. Normalement, ça devrait être une priorité de lutter contre la pauvreté. On sait que si on trouve avec les plus pauvres des solutions, on sait que ces solutions-là seront bonnes pour tous. Tout le monde sait aujourd'hui que le ruissellement, ça ne marche pas et que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut partir de ce que vivent les plus pauvres, de ce dont ils ont besoin, des besoins des personnes de notre société. Et à partir de ces besoins, élaborer les politiques publiques, dimensionner ces politiques à partir des besoins et après faire les services publics aussi qui vont avec. Quoi. Parce qu'aujourd'hui, les services publics ne sont plus du tout dimensionnés en fonction des besoins, ils sont dimensionnés en fonction des moyens dits disponibles.
Donc, regarder les politiques publiques à l'aune des besoins des plus faibles. Ça nous rappelle quelque chose dans l'Évangile. Louise, vous disiez quelque chose ? Vous vouliez dire quelque chose sur quelque chose qui marche, qui vous semble important pour qu'une pratique associative, une politique publique marche ?
Je trouve qu'il y a une deuxième chose qui peut marcher, qui n'est pas indépendant de ce que vient de dire Isabelle, mais c'est la prise en compte de toutes les dimensions de la personne. C'est-à-dire que pour certains, bah, j'en sais rien, mais le levier de l'insertion professionnelle ne sera pas le premier axe sur lequel on pourra travailler. Mais l'idée de regarder toutes les dimensions de la personne, il y a forcément un endroit où il peut y avoir un levier. Tout à l'heure, Sylvie citait qu'il y avait un séjour qui avait eu lieu en Normandie. Donc, c'est un séjour qui a eu lieu il y a un mois ou je ne sais plus, il n'y a pas très longtemps. Un séjour sur la thématique de l'estime de soi. Et sur ce séjour a participé une personne qui a des addictions importantes à l'alcool, dont on parlait tout à l'heure, et qui donc, si moi je le traduis avec mes mots, qui a plus de pulsions de mort que de pulsions de vie, qui a plus de symptômes d'auto-exclusion que de symptômes d'inclusion dans la société ou dans un collectif. Mais en tout cas, sur des actions de ce type-là, on peut travailler sur des petits leviers, étape par étape. Alors là, ça va être sur l'estime de soi. Pour d'autres, ça va être sur la question plutôt existentielle ou spirituelle, sur l'axe de la santé, qui est quand même un axe qui est important pour les personnes qui sont en précarité, qui sont à la rue. Mais voilà, tenir compte de toutes les dimensions de la personne. Il y a le logement, il y a l'insertion dans la société. Vous parliez du pouvoir d'agir. Je citerai un autre exemple. On a un collectif de personnes qui participent à la rédaction, enfin qui sont en train ou qui ont fini de rédiger une lettre adressée aux candidats pour les municipales de 2026. Et ça, c'est une façon aussi de reconnaître que les personnes qui sont à la rue, ce ne sont pas que des chiffres. C'est Sylvie, c'est Ricardo, c'est Arthur. Voilà, et qu'ils ont autant de place que nous dans cette société, et que oui, ce que vous disiez Isabelle, c'est que leur redonner un pouvoir d'agir sur eux-mêmes, mais aussi sur la société, c'est important, je pense.
Oui, je voudrais, parmi ce qui marque la précarité, c'est les ruptures permanentes et incessantes de prise en charge. Je citais les déplacements d'un département à l'autre, il faut tout recommencer... l'hébergement rue. Et ce qui marche, j'ai été aussi un président de Solidarité Nouvelle pour le logement pendant 3 ans en Ile-de-France, il y a quelques années. Ce qui marche, de mon point de vue, c'est le mixte entre le professionnel de l'intervention sociale et le bénévole. C'est-à-dire, quand on accompagne des personnes, pour qu'elles s'en sortent, il faut qu'il y ait un déclic. Et ce déclic... plus vous avez d'intervenants incessants qui passent autour, plus c'est difficile de construire une relation de confiance, d'être amené à toujours raconter la même histoire, qu'est-ce qui m'est arrivé. Et le regard porté par le bénévole et la relation qui est créée entre le bénévole et la personne en précarité, encore une fois, elle va nous dire des choses différentes de ce qu'elle va dire à un professionnel. Elle va pas être dans le regard d'éventuellement d'être jugée ou questionnée par rapport à « mais pourquoi vous avez fait ça ?» Voilà. Je prends un exemple très concret. J'avais accompagné une famille dans Paris et on envoyait des courriers. On s'apercevait que les courriers n'étaient jamais... il n'y avait pas de retour. Et le travailleur social n'avait pas de réponse. Et un soir, dans une relation autour d'un petit verre à 19h, la personne m'a expliqué qu'elle avait tellement eu de poursuites d'huissier qu'elle n'ouvrait plus sa boîte aux lettres depuis des années et qu'elle ne regardait pas son courrier. Mais ça, elle ne l'avait pas dit aux professionnels. Donc, parmi les exemples, à mon sens, qui fonctionnent, c'est cette articulation entre l'environnement humain et l'environnement des professionnels. Et pour que ça marche encore mieux, on a développé ces dernières années en France l'approche plus nord-américaine du travail pair, PAIR, c'est-à-dire utiliser la richesse des personnes qui sont passées par des situations de grande précarité comme étant des acteurs de l'intervention sociale. Parce qu'elles vont aussi être en capacité de, de comprendre les personnes comme nous qui n'avons pas traversé ces situations de grande exclusion, sont pas forcément conscients des choses. Donc, je pense que c'est important aussi de développer une approche de professionnel avec, dans des équipes pluridisciplinaires, parce que comme cela a été dit, il faut aujourd'hui faire du pluridisciplinaire dans la réponse publique et la réponse associative, parce qu'encore une fois, les contraintes et la réalité de la précarité aujourd'hui fait qu'il faut à la fois du médical, du social, du lien. Et c'est à partir du moment où on est capable de créer cet environnement qu'on peut espérer avoir ce déclic et d'apporter une réponse durable à la personne en fragilité.
Frédéric, vous voulez ajouter quelque chose?
Moi, je vais peut-être parler plus du côté des jeunes, voilà, parce que je suis prof depuis toujours. Et moi, ce que j'ai beaucoup remarqué, c'est souvent on va définir la personne pauvre comme celle qui n'a rien à donner, parce qu'elle est pauvre. Et souvent, j'ai remarqué, en particulier chez les jeunes ados, un vrai déclic quand on leur demande un service, en disant, j'ai besoin de toi, est-ce que tu peux m'aider à faire ça ou ça? Et je me souviens très bien d'une fois où c'était chez les apprentis d'Auteuil, il y avait un problème sur ma voiture. Ah, mais ils étaient, ils étaient heureux de pouvoir être valorisés et de rendre service. Et souvent, j'ai remarqué ça, quand on ose demander quelque chose à quelqu'un à qui, spontanément, on ne penserait même pas à lui demander. Et finalement, se dire, la personne pauvre, elle a quelque chose à donner. Et oser croire que ce qu'elle va nous donner, on en a vraiment besoin et qu'elle est capable de nous donner ce service et de rentrer en relation. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté avec des jeunes qui, quelquefois, repartent par une simple perspective comme ça.
Et Frédéric, dans l'Évangile, au téléphone, vous me parliez de la parabole du bon samaritain,
oui, que j'aime
permettait
beaucoup.
De renouveler le regard. Quand on intervient en tant que citoyen, ou en tant que bénévole, ou en tant que personne, comment est-ce qu'on peut tirer de l'Évangile des préceptes pour agir avec les personnes les plus
pauvres? Alors, ce que j'aime bien chez le bon samaritain, c'est qu'il n'accapare pas la personne. Il va s'arrêter, il va voir la misère de cette personne qui est dans le fossé, il va oser s'arrêter, il va lui porter les premiers soins. Et ce que j'aime beaucoup chez le bon samaritain, c'est qu'il s'arrête ensuite et il confie la personne à quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire qu'il charge... Il appelle les autres à vivre aussi une action solidaire. Donc, il appelle le meilleur d'eux-mêmes chez la personne qui va laisser la personne malade. Mais en même temps, il ne se positionne pas en sauveur de la personne. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose que l'Évangile nous apprend. Être simplement quelqu'un de passage. Voilà. On est là, on va simplement être pour un temps une personne qui va aider. Et puis ensuite, même rendre la personne capable d'aider d'autres ou confier la personne à d'autres et puis savoir se retirer et puis continuer autrement. Voilà, c'est, je crois, parce qu'autrement, le risque, c'est toujours de se dire « j'ai mes pauvres ». Voilà, ça peut être un risque très fort quelquefois, même avec la meilleure bonne volonté du monde. Et j'aime beaucoup cette parabole du Samaritain parce que l'Évangile nous dit « agissez, mais agissez avec d'autres et passez le relais ».
Et avant que je passe la parole à la salle, donc si vous avez des questions, préparez-les, parce que ça va être votre tour. Je voulais poser une dernière question, peut-être à Louise ou à Isabelle. Qu'est-ce que vous conseillez aux riverains, aux bénévoles ou ceux qui ne le sont pas, comme attitude, comme souvent on passe devant des personnes à la rue, on n'ose pas aller les voir parce qu'on n'a pas de monnaie, parce qu'on se dit, il y a une sorte de gêne. Comment il faut se comporter? Qu'est-ce qui serait bien de faire, en fait, tout simplement?
Alors, moi, je vais emprunter les mots de Karim et Ricardo, qui ont travaillé avec Paul à la préparation des soirées de formation pour les bénévoles des captifs. Donc, en fait, je vais me contenter de lire leurs conseils pour les futurs bénévoles des captifs. et qui, à mon avis, peuvent être valables pour tout riverain qui connaît quelqu'un qui est à la rue sur son trajet de boulot. Voilà. Il faut dire bonjour pour commencer et sourire. Il faut écouter, donner du temps, passer du temps, car beaucoup de personnes à la rue sont isolées et vraiment isolées. Donnez de votre temps, parlez. Le bénévole, il parle avec toi. On a besoin de personnes pour nous aider à bien parler pour les rendez-vous. Si on n'est pas accompagné, on ne bouge pas. Les sorties, c'est bien, car ça fait penser à autre chose. Apprendre à se connaître, donc un binôme bénévole et personne rencontrée en rue. Chacun apporte quelque chose à l'autre ou son expérience. Gardez en tête que la rue, c'est dur et qu'on est méfiant. J'en ai marre, j'ai pas d'argent. Je reste comme ça avec ma bière, mais j'ai besoin qu'on m'écoute. Je compte sur la bénévole qui vient chaque semaine et à qui je peux me confier. Ça m'évite de boire, car entre elle et moi, je cite mon amie, j'ai totale confiance. Ne pas donner des conseils, ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Ne pas dire « il faut que tu arrêtes l'alcool » alors que je ne connais pas les personnes.
Bon, vaste programme, Isabelle, pour compléter.
Oui, alors peut-être comme engagement à TD Carmonde, en fait, on a ce qu'on appelle l'alliance. Donc, moi, je suis une alliée, c'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire au cœur de notre mouvement, il y a vraiment l'engagement des gens qui vivent la grande pauvreté, dont on essaie justement de formaliser le savoir et on fait un certain nombre de choses dans ce sens-là. Et après, il y a des gens qui sont insérés dans la société, qui ont un métier, qui ont une place et un peu partout et qui sont des alliés de ce combat des plus pauvres pour faire reconnaître leurs droits. Et le principe de l'allié, c'est pas forcément d'être très actif dans notre mouvement, mais c'est de là où on est, là où on travaille, là où on se trouve, dans les contacts qu'on a, d'essayer justement de lutter contre cette stigmatisation des plus pauvres qui est si forte, de rappeler que voilà, que les droits fondamentaux sont essentiels, que la dignité de chacun doit être respectée parce que c'est ce qui fait la valeur d'homme de tous et que c'est ça qui est au cœur. Et vraiment essayer aussi de faire changer les représentations là où on est et du coup de se battre pour des politiques qui soient vraiment fondées sur l'universalité des droits pour tous avec un accès possible pour tous. Voilà, c'est peut-être un peu loin de la réponse, mais
non,
c'est...
Non, chacun voit midi à sa porte. Alors, la salle, vous avez des questions? Je vous demanderai simplement, pour qu'on vous voie, de vous lever. Et puis, soit comme vous le sentez, vous attendez le micro, soit vous levez, vous parlez d'une voix forte. Et si vous le souhaitez, vous dites qui vous êtes pour qu'on sache d'où vous parlez.
Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. J'avais une question sur la place qu'on donne à la stratégie de lutte contre la pauvreté aujourd'hui en France. De la phrase des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Je pense qu'il faut parler des pauvres qu'il y a actuellement, donc c'est toute l'émission dont vous parliez, mais aussi des pauvres futurs. Aujourd'hui, quand on sait qu'on a certains chiffres qui disent qu'il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté, est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire sur la prévention? On a quand même des économistes qui ont montré que faire du préventif, finalement, ça avait plus de conséquences sur la lutte contre la pauvreté. Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème en fait, dans le fond du modèle? Il faut aider les personnes pauvres aujourd'hui, mais il faut faire beaucoup plus pour les futurs pauvres qui arrivent.
Alain? Isabelle?
On a effectivement déjà plusieurs... On a des temps de recul, on a eu plusieurs conférences sur la pauvreté. J'ai participé, moi, à deux d'entre elles sur des groupes de travail. On a essayé d'être dans cette dynamique d'anticipation, mais on se heurte, encore une fois, à la vision très court-termiste des politiques publiques. Et on peut démontrer assez économiquement, je l'ai fait avec l'École d'économie de Paris, qu'un sans-abri coûte entre 25 et 30 000 euros par an. Et si on est dans une approche logement d'abord, on est à autour de 10 000 euros. Donc, si on est, si on essaye de, d'être intelligent...
Quand il est logé, vous voulez dire ?
Pardon ?
Loger, ça coûte moins cher que de, oui, que de laisser à la rue, c'est ça que vous voulez dire ?
Parce qu'il y a à la rue d'énormes... Il y a plus de dépenses d'urgence, d'accès à la santé, d'accès... il y a des périodes de phase aussi de prison. Enfin, il y a tout un tas de dépenses qui sont beaucoup moins... qui sont d'un intérêt public, encore une fois, de traitement de l'urgence. Mais si on prenait les choses d'une manière plus curative et plus structurelle, on aurait, encore une fois... une mise en perspective positive de diminution de la pauvreté. Et aussi, si on appliquait les lois qu'on a votées, parce que comme l'a dit aussi tout à l'heure la vice-présidente d'ATD Quart-Monde, on a une loi de 98 qui est extrêmement construite, un comité interministériel de lutte contre l'exclusion qui devait se tenir tous les ans, une stratégie portée par le gouvernement à partir de 2017, une stratégie quinquennale sur la prévention. Et finalement, on voit que, je terminais au début d'intervention sur la question de la volonté politique, on retombe toujours sur l'articulation entre l'urgence, le court-termisme, et puis la nécessité d'être, encore une fois, dans une démarche plus moyen et long terme, mais qui aujourd'hui est très difficile à faire prendre en compte, et encore plus dans l'instabilité politique dans laquelle nous sommes, pour construire une vision à moyen terme, c'est aujourd'hui difficile.
Une autre question ?
Bonsoir. Je suis bénévole à Malte depuis une vingtaine d'années. En tant que tel, j'ai une certaine expérience et d'un certain vécu. Et je vais vous parler ce soir de deux choses. La pauvreté dans la rue, mais également la pauvreté qui ne se voit pas, mais qui sont aussi dans les maisons. La pauvreté dans la rue... C'est principalement à travers les maraudes que nous le faisons. Et nous essayons de bâtir avec les gens que nous rencontrons quelque chose. Et parfois, cette construction s'arrête ou disparaît. Et souvent, pour mon compte personnel, quand je rencontre certaines personnes que je commence à connaître, qui me disent « Ah, Bruno, te voilà, je t'attendais ». Je suis content de te voir et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Louise tout à l'heure parce que c'est tout à fait vrai et j'y ajoute une chose ou deux choses, le sourire, le regard, la confiance. Et puis, je rejoindrai aussi M. Alain Régnier sur la misère dans les maisons et principalement en province. Et j'en prendrai un exemple que je viens de découvrir et que je viens d'apprendre qui se passe à côté d'Évreux, dans une maison où il y a là un monsieur qui est dans un état absolument épouvantable, qui vit dans un taudis absolument épouvantable et au milieu d'un jardin tout aussi épouvantable. Le médecin, qui est un médecin plus ou moins à la retraite, avec la délégation d'Évreux, a essayé de lui faire comprendre qu'il faut faire évoluer. Ils se sont repris à 6 fois. Ils ne sont rentrés qu'à la 4e fois dans cette maison. Ils ont découvert que ce monsieur avait des gros problèmes de santé et qu'il fallait l'opérer. Ils ont réussi. Donc voilà, je pense que ces actions, il faut les continuer, même si nous sommes dans une situation économique épouvantable. Donc je dis, continuons.
Merci pour votre engagement. Une autre question dans la salle ?
Si je peux me permettre d'intervenir au sujet des jeunes, en tant que président d'une association pour aider les jeunes, je voudrais dire une chose. La précarité, ce n'est pas une chose. Il n'y a pas une réponse. Il y a une série de réponses qui... dépendent les unes des autres. Le logement en est une, presque principale. Je suis d'accord avec M. Régnier, qui a beaucoup œuvré dans ce domaine-là. Mais il n'y a pas que le... Parce que pour avoir un logement, il faut de la ressource. avoir la ressource, il faut un emploi. Pour avoir un emploi, il faut de la formation. Pour avoir de la formation, il faut de la mobilité, avoir une bonne santé et un logement. Et on repart dans la boucle. Si on ne prend pas en compte, et moi j'ai entendu ça de vous quatre, la globalité de la personne, de ses problèmes, il faut commencer par un, bien sûr, on n'y arrivera pas. Il faut prendre dans son ensemble pour les... Et alors, je pense que les pouvoirs publics font des choses, mais je voudrais souligner ce qu'a dit M. Régnier, il lui faudrait beaucoup plus d'efficacité qu'il n'y en a actuellement. Et les jeunes, je crois qu'ils méritent ça, ils ont besoin de ça. Alors, il y a les pauvres, on voit beaucoup de pauvreté chez les jeunes, mais c'est la précarité et cette difficulté à sortir du cercle vicieux, logement, ressources, emploi, formation et mobilité. Voilà.
Merci pour votre analyse éclairée, le monsieur qui est debout.
Oui, merci. Moi, je serai beaucoup plus modeste, mais vous avez parlé de la confiance en soi et de l'estime de soi. J'aimerais que vous me parliez de culture et de la pratique culturelle. J'ai travaillé moi-même comme urbaniste dans la banlieue nord de Paris. Je pense par exemple à Zaya Ziwani, l'orchestre Divertimento, qui permet à des gens qui ne pensaient pas un seul moment pratiquer cet art, même en musique classique, qui sont arrivés. Je crois que c'est ATD Carmonte qu'il y a des expériences de théâtre, c'est-à-dire qu'on devient acteur de théâtre. Et quand on devient acteur de théâtre, on s'estime soi-même, on a en tout cas une façon de s'exprimer différente. Voilà, j'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu.
Isabelle, ce fameux projet théâtral avec ce fabuleux metteur en scène.
Oui. Alors, oui, enfin, la culture, elle est centrale parce qu'en fait, en effet, on a quand même des inégalités d'accès aujourd'hui au savoir et en particulier à la culture qui sont énormes dans notre population et qui s'aggravent aujourd'hui. Hein, donc, on est vraiment. Donc, en effet, la culture est un moyen aussi de faire ensemble, ce qui est important aussi. Et du coup, d'ailleurs, quand on met tout le monde à faire un atelier, parce qu'on passe beaucoup par des ateliers, par exemple, on fait l'été dans les quartiers, on fait ce qu'on appelle des festivals d'art et savoir, où on fait des ateliers un peu surtout en mélangeant des artistes, des parents, des enfants, et en essayant de faire ensemble. Et là, finalement, tout le monde est un peu au même niveau de savoir quand on est dans ces ateliers, et ça permet de créer ensemble et de retrouver et de montrer que chacun peut faire, en fait, sans être jugé. Donc, et ça crée des choses assez formidables. En ce moment, on fait pas mal d'ateliers nature, parce qu'on essaye de développer aussi la dimension écologie et de voir comment on peut parler d'écologie avec les plus pauvres, et parce qu'on est convaincu qu'ils ont beaucoup à apporter sur ce sujet-là aussi. Et du coup, on fait plein d'ateliers avec les enfants et ils prélèvent des trucs dans la nature et ils fabriquent des choses avec, ils font des trucs. Et c'est l'inventivité de ces gamins qui sont jugés comme en échec scolaire dans ce type d'atelier, c'est assez formidable. Voilà. Et en effet, donc, sur le projet dont je vous parlais tout à l'heure en Plate et Cagette, il y a eu aussi, justement, ça a commencé aussi, en fait, c'était un projet qui s'appelait « La dignité dans nos assiettes en terre de Lorraine », et ça a commencé justement par écrire un livre qui s'appelait « Se nourrir quand on est pauvre », et qui a donné lieu à une pièce de théâtre qui s'appelle « Les mots de la faim », et il y a un film d'ailleurs qui vous montre un peu ce que cette pièce et comment ça se passe dans les coulisses entre les personnes, et qui a été joué par les personnes qui avaient fait et qui tournent en France. Et en effet, après, on a un atelier théâtre où tous les ans, on fait et qui passe, et les pièces faites passent au festival d'Avignon, enfin le festival à côté, là, je ne sais plus comment il s'appelle, mais off, voilà.
Et avant de terminer cette table ronde, je voudrais donner la parole à Frédéric parce qu'on. je vais vous surprendre en mettant. On parle beaucoup, on entend beaucoup des discours de lassitude par rapport à l'argent, au pognon de dingue qui est dépensé pour les pauvres, à l'assistanat, des choses comme ça. Est-ce que pour les chrétiens que nous sommes peut-être majoritairement dans cette salle, l'option préférentielle pour les plus pauvres, est-ce que c'est une option?
Non, c'est pas
on a une encyclique du pape. Voilà.
Voilà. C'est pas du tout une option. Je dirais que le cri des pauvres, nous aurons à en répondre si nous ne l'entendons pas quelque part. C'est-à-dire que c'est le frère, c'est la sœur qui est, je dirais, qui est peut-être le plus marqué par la souffrance, qui est marqué aussi par la précarité, qui est marqué par le... Bon, je suis très sensible à cette idée de culture, parce qu'effectivement, de génération en génération, on voit que ben, ça se reproduit, parce que ben, pour scolariser des enfants qui sont dans des situations de précarité, c'est extrêmement difficile d'avoir un suivi. On croit que ça y est, il va décoller, il va partir, ou elle va partir, et puis eh bien, on se retrouve à zéro et on recommence. Hein. Je pense que, et effectivement, l'option préférentielle pour les pauvres. Alors, quelquefois, on parle de sa tâche d'aimer les plus pauvres. J'avoue que j'ai horreur d'entendre ça, les plus pauvres. Pourquoi les plus ? Les pauvres. Mais j'aime bien aussi dire, finalement, cette précarité. Alors, j'aime bien ce que dit... Alors, si je puis me permettre, parce que j'ai vraiment regardé quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est dans le dernier texte, enfin, le premier texte, hein, du pape Léon, d'Illexité. Et alors, il parle de Saint François, et ça m'a profondément marqué. J'ai pensé à vous tout de suite quand j'ai lu ça. Il dit « François n'a pas fondé une réalité de service social, mais une fraternité évangélique. Sa mission était d'être avec eux dans une solidarité qui dépassait les distances. » Et moi, c'est ça l'option préférentielle pour les pauvres. Et c'est comme ça que je la déclinerai. C'est-à-dire être en fraternité avec les pauvres. Parce que il y a quelque chose de très profond. Le chrétien, c'est, à mon avis, celui qui doit se tenir en fraternité avec les pauvres. Et pas être la main qui donne, mais la main qui se tend et qui sert. Qui se serre, enfin les mains qui se serrent. Voilà, c'est comme ça que je le définirais.
Bon, voilà le programme, les amis. Je vais, parce que c'est la fin de la table ronde, donc je vais passer la parole à Jean-Damien Lelièvre, qui est président des Captifs et qui va clore cette table ronde.
Bonsoir. Alors, en choisissant ce thème qui est ambitieux, on savait bien qu'on n'épuiserait pas le sujet. Bon, vous nous avez donné des éclairages différents, c'était passionnant. Mais je vais essayer, alors je vous remercie d'abord de cette participation. Vous avez tous les quatre apporté votre expérience. Je ne vais pas essayer de faire une synthèse, c'est impossible. Mais je vais juste reprendre quelques éléments. Et en discutant avec Thierry, on se disait, le vrai thème de la soirée serait dû être « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, scandale et réalisme ». Et la première chose, c'est en effet un scandale. Je pense qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Puis Sylvie nous l'a rappelé tout à l'heure. Puis vous l'avez dit, Isabelle, Alain, vous l'avez tous dit. Et c'est pourquoi nous devons nous engager pour combattre cette pauvreté. C'est ce que nous vous disons dans une des tribunes que vous avez eues dans votre pochette. Chacun doit s'engager en fonction de son rôle dans la société. Les élus, les décideurs politiques, les décideurs dans les entreprises, les salariés, les bénévoles et les simples citoyens. Et cet engagement, il concerne diverses pauvretés. Parce que j'aime bien ce qu'a dit, je cite aussi le pape dans Dilexité, il y a des pauvretés matérielles, la pauvreté de ceux qui sont socialement marginalisés, la pauvreté spirituelle, la pauvreté morale et la pauvreté culturelle, on en a parlé à l'instant. Donc, face à ces diverses pauvretés, nous les captifs, on s'engage auprès de ceux qui vivent dans la rue ou qui sont en situation de prostitution. Et c'est ce que font les salariés et bénévoles des captifs, Louise l'a expliqué, et ça rejoint... voilà. Nous avons aussi à agir contre le quatrième point sur ce scandale, c'est que c'est un scandale, et nous avons à agir contre le regard porté sur la pauvreté. J'ai noté lutter contre la perte d'empathie, contre la stigmatisation, vous l'avez dit. C'est vraiment notre mission à tous, et notamment aux captifs. Mais deuxièmement, c'est un scandale, mais il faut être réaliste. On l'a dit tout à l'heure, en 2026, 2027, 2028, il y aura toujours des personnes dans la rue avec nous. On ne l'a peut-être pas relevé, mais moi je trouve que c'est peut-être le mot, l'expression la plus importante de cette phrase de l'Évangile. Il s'agit de regarder les pauvres qui sont à notre proximité, d'avoir une compréhension de l'ensemble et des problèmes, des questions systémiques, mais on a des personnes qui sont dans la rue avec nous, comme le dit l'Évangile. Et nous en aurons toujours. D'abord parce que Naïma, l'exemple de Naïma et Sylvie l'a dit, parce que sortir de la rue, c'est un parcours long et difficile, avec des allers-retours. Voilà. Deuxièmement, parce que les personnes que nous accompagnons ont des blocages intimes, vraiment des nœuds à dénouer. J'utilise des expressions dont ils témoignent. Azedine, dont on a parlé tout à l'heure, nous avait témoigné un jour et a dit « J'ai des nœuds à dénouer au fond de moi. J'avais des nœuds à dénouer au fond de moi qui se sont libérés progressivement. » Et ça, ça prend du temps. Et puis ce soir, on a beaucoup parlé de solutions d'hébergement avec le logement d'abord, mais on a aussi parlé des autres aspects qui sont nécessaires pour avoir une resociabilisation. Donc il y a résoudre les questions administratives. On n'a pas parlé des questions de santé physique et mentale et des questions d'addiction, notamment à l'alcool, qui sont vraiment prioritaires. Et le dernier point sur ce réalisme, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est parce qu'il y a des personnes qui sont dans la rue et qui malheureusement vont y rester que l'on fait des maraudes tous les soirs. C'est-à-dire que quand on fait une maraude, évidemment, on rêverait qu'ils ne soient pas dans la rue, on rêverait qu'ils acceptent de venir nous voir à l'antenne, on rêverait qu'ils acceptent d'avoir une démarche vers un logement. Mais notre première mission, elle est d'abord d'être avec eux, simplement avec eux, de reconnaître leur dignité, on l'a dit tout à l'heure, de respecter leur liberté et, si possible, de rendre un peu moins dure leur situation à la rue, en les accompagnant, par exemple, pour prendre une douche dans un des centres, pour se rendre à un hôpital, en les informant sur des solutions. Et puis, à un moment donné, il faut qu'on soit attentif à leur désir de sortir de la rue, pour les accompagner dans leur projet. Tout ça, ça nécessite beaucoup d'humilité, comme vous l'avez explicité, Frédéric, dans la parole du bon samaritain. C'est beaucoup d'humilité pour se dire, c'est pas nous qui allons sortir de là, il y a d'autres choses derrière. Mais c'est vrai que c'est des maraudes qui nous transforment profondément. Et je voulais vous rajouter une chose par rapport à cette phrase, c'est que dans l'association, on a l'habitude de tous de s'appeler des captifs. Donc à la fois les personnes rencontrées, celles qui sont accueillies dans nos antennes, mais aussi les bénévoles et les salariés. Les captifs, c'est accueillis, bénévoles, salariés. Parce que nous considérons, nous aussi, que nous avons des captivités dont nous devons nous libérer. De la même façon, moi, je crois qu'une des clés pour comprendre cet évangile, c'est aussi de considérer nos pauvretés et de nous inclure parmi ces plus pauvres. Évidemment, on n'a pas la même pauvreté matérielle, mais on a nos limites et notre pauvreté, et on va éviter toute posture en surplomb. Et c'est ce qu'on a vécu à Rome. Comme disait Thierry, on a eu deux nuits en car, une à l'aller, une au retour. Ça crée des liens. On a marché, on a déjeuné, on a prié ensemble. Et pour terminer, je voudrais juste vous citer ce qu'a dit une des personnes qui était avec nous et qui me paraît un peu une réponse à la question que vous avez posée, qu'est-ce qui marche ? C'était dans le débrief du dernier jour. Hein. C'est la première fois que je voyageais aussi loin, aussi longtemps, avec autant de monde. C'était une expérience difficile pour moi au début et j'ai fait ma mauvaise tête. Mais merci aux accueillants d'avoir été bienveillants malgré la fatigue. On a tous fait attention aux uns et aux autres. Cela m'a réconcilié avec mes frères et sœurs en humanité. Et bien, je suis convaincu que cette personne, elle a dénoué un nœud. Je ne sais pas quelle va être la suite de son histoire, mais elle a dénoué un nœud en venant avec nous à Rome. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre présence. On va pouvoir boire un verre ensemble. Je remercie toute l'équipe des captifs qui a organisé cet événement, notamment Margot. Elle doit être de l'autre côté, je pense, qui était le pivot de l'organisation, la clé de voûte de l'organisation, et puis aussi les bénévoles qui l'assistent. Alors, le buffet, il sera... Il faut sortir et aller tout droit. À gauche, en sortant, vous aurez un point de vente de l'atelier Bakita, un atelier de couture réalisé par les personnes issues de la prostitution qui travaillent dans cet atelier. Voilà. Bonne soirée à tous et à tout de suite.